médecin avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Vous êtes jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, vous avez envie surtout de réaliser un projet, quel que soit le secteur, que ce soit, que sais-je, dans l'agroalimentaire, dans les technologies, dans le social, dans la culture ou dans l'humanitaire. Eh bien, dans le studio de RFI, chaque mois, pour dialoguer avec vous, c'est le retour du coach. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le directeur général d'Afrique Search, une société de conseil en ressources humaines. Et évidemment, vous sillonnez le continent à l'affût des bruissements de l'économie. Et lorsque vous êtes de passage chez les voisins, vous écoutez d'abord les porteurs de projets et puis surtout vous répondez aux questions, vous détectez les failles des projets pour ceux qui se disent bloqués. Voilà, les voisins, je vous rappelle que la seule condition pour passer dans l'émission, c'est que votre projet doit être mûrement réfléchi, rédigé. Vous devez être capable évidemment de nous exposer les points forts, les points faibles de votre projet. Et vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr aussi sur notre page Facebook. Vous laissez vos numéros de téléphone et puis en fin d'émission, Didier, vous nous donnerez vos conseils. Vous le faites chaque mois maintenant pour faire son business plan ou plan d'affaires. Comment monter des partenariats, puisque chaque mois, il y a donc, on explore un chapitre en particulier du business plan. Voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone pour dialoguer avec le coach Didier Akouété, 33 1 84 22 71 71. Didier Akouété, avant qu'on donne la parole à un premier projet, d'ailleurs on a la chance d'avoir le porteur de projet en studio. Didier, vous allez bientôt participer aux 20 ans de la Fondation Bénian Internationale. C'est une fondation qui s'engage pour l'enseignement supérieur en Afrique et qui est basée à Abidjan.
Oui, vous connaissez bien la Fondation Bénian, une création de Noël Banjo, avec la dynamique Sylviane Fontaine qu'on ne présente plus, qui a 20 ans d'existence maintenant, qui fait la promotion de l'excellence. Et figurez-vous que cette fondation a investi plus de 4 milliards de francs CFA pour soutenir plus de 450 jeunes Africains talentueux qui ont fait leurs études à HEC, Harvard ou MIT. Bref, des jeunes brillantissimes soutenus par la fondation et cette association qui va fêter ses 20 ans en juillet, donc 20 ans déjà, les 8 et 9 juillet à Abidjan. Avec, je pense, une grande manifestation.
Il y aura un marché des business schools, effectivement, à Abidjan, au Palais de la Culture d'Abidjan, avec des grandes écoles, des universités internationales. C'est important parce que c'est une fondation qui a vraiment donné de l'espoir aux jeunes à des époques aussi difficiles pour la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est vrai. Et puis surtout qui a montré que la formation en Afrique n'était pas si mauvaise que ça, puisque c'est des jeunes qui ont étudié en Afrique et qui réussissent brillamment les concours des grandes écoles internationales. Et c'est vrai, à l'époque, on louait beaucoup le miracle ivoirien, le modèle ivoirien avec le principe des grandes écoles. Donc je crois que ça, c'est d'abord un véritable encouragement aux jeunes Africains à étudier sérieusement parce qu'ils peuvent aspirer aux meilleures universités dans le monde. Les 450 jeunes qui ont pu bénéficier des bourses de cette fondation ont créé finalement une génération de talents
à travers ce système. Qui ont ensuite créé des associations d'étudiants, etc.
Exactement.
Pour donner des conseils aux petits frères.
Que la fondation soutient, certains qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ont créé leur entreprise, qui sont des cadres dirigeants d'entreprise. Donc je crois que c'est un très bon modèle qu'il faut que beaucoup puissent répliquer dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous savez, on parle souvent de fondations, de dons, etc. Et malheureusement, il n'y en a pas assez.
Donc les 20 ans d'Afrique Search, les 20 ans de la Fondation Bénian, ça va être un petit peu avant les 20 ans d'Afrique Search, parce que 8 et 9 juillet, donc les 20 ans de la Fondation Bénian, et 15 septembre prochain, on le signale un peu à l'avance, pour les voisins, vous aurez tout l'été pour vous y préparer, ce sont les 20 ans d'Afrique Search.
C'est vrai, ça passe très vite, beaucoup de cheveux blancs, 20 ans Bénian, 20 ans Afrique Search.
On ne voit rien.
Le 15 septembre, c'est vrai.
Voilà, vous aussi, vous avez galéré pour monter votre boîte, c'est ça qu'il faudra rappeler.
Et on pourra en parler avec les jeunes qui veulent entreprendre.
Exactement. Bon, alors justement, vous avez des jeunes en face de vous, Didier Akouété. On va d'abord redonner le numéro de téléphone du Standard pour tous ceux qui ont envie de dialoguer avec vous et de vous suggérer les projets sur lesquels ils travaillent, quel que soit le secteur. On vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone et ensuite on passe la parole à un premier porteur de projet qui est dans le studio aujourd'hui. C'est exceptionnel.
33 1 84 22 71 71 pour se parler.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Gilles Le Serre, bonjour, vous êtes en studio avec bonjour. Nous à Paris. Vous avez 25 ans, vous terminez vos études à HEC Paris, grande école de commerce française. Vous avez fait des 2 années de césure au cours de votre parcours à HEC. Vous avez choisi de faire des stages sur le continent africain. Alors que rien ne vous y prédestinait, non, je crois, ou pas ?
Non, pas vraiment, à part une passion de longue date pour le développement, la géopolitique africaine.
Ouais. Et donc, maintenant, vous avez un projet avec, vous êtes deux, hein, avec un associé. C'est un projet pour financer des PME en Afrique de l'Ouest qui s'appelle Iroko Project. Alors, le concept lui-même, financer des PME en Afrique de l'Ouest, c'est pas très nouveau. En revanche, les besoins sont loin d'être assouvis. Hein.
Exactement. En fait, on se situe sur ce qu'on appelle le missing middle ou le chaînon manquant du financement, c'est-à-dire au-dessus de la microfinance traditionnelle et en dessous des seuils bancaires. Donc, quelques acteurs émergent. En Afrique de l'Ouest notamment, on pense à Cofina du banquier Jean-Luc Conan. Et nous souhaitons apporter un nouveau produit de financement à ces PME via du financement participatif, donc du crowdfunding, mais d'un mode un peu nouveau parce qu'il s'agit non pas de dons, comme on l'entend traditionnellement le crowdfunding, mais de la dette, donc du crowdlending en dette rémunérée. Concrètement, au lieu de donner 10 000 francs CFA à une entreprise, vous lui prêtez de l'argent et cet argent sera rémunéré et on vous le remboursera.
C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux, si je veux, à travers votre plateforme, quand elle va démarrer, investir dans une PME africaine naissante. C'est ça.
Exactement.
N'importe qui peut investir.
Exactement. Après, il y a des restrictions légales sur les transferts internationaux et financiers qui coûtent cher souvent. Donc, avec Paul, donc mon associé, on est plutôt à la recherche de contributions locales, donc de personnes résidant au Sénégal, par exemple, pour financer des PME sénégalaises. Le gros avantage de la zone France, c'est une intégration de la monnaie qui permettrait notamment, par exemple, à quelqu'un résident à Abidjan de financer une PME à Dakar.
Ouais. Pourquoi vous voulez démarrer à Dakar ? Après, je sais que vous avez le projet de dupliquer à Abidjan si ça marche, mais pourquoi Dakar ?
Alors, avec Paul, nous avons mené une étude de faisabilité de ce projet en avril-mai à Dakar et à Abidjan. L'idée était de créer un modèle opérationnel. Parce que c'est un petit détail, mais qui a son importance. Le cadre réglementaire pour faire du financement participatif en dette rémunérée n'existe pas en Afrique de l'Ouest. Alors qu'il existe en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis. Du coup, notre travail a été de créer un modèle opérationnel qui permet de contourner cette réglementation, ou plutôt ce vide réglementaire, pour permettre à des particuliers, comme vous et moi, de prêter à une PME et d'espérer être remboursé derrière. Donc on a mené cette étude en avril-mai, donc à Dakar et à Abidjan, et on est plus optimiste pour Dakar pour lancer la phase test initiale, car nous avons eu la chance de mieux s'intégrer à l'écosystème du financement, à rencontrer des directeurs de structures d'accompagnement des PME, des banquiers, on peut par exemple citer M. Si qui dirige la BNDE, M. Thiam qui dirige la DEPME, parce que notre idée aide bien sûr à limiter le risque de défaut pour les particuliers.
Ouais, c'est ça, parce que bien souvent, quand on lance un projet, c'est aussi une affaire de rencontre. Donc là, ça a bien fonctionné. Vous avez, alors évidemment, pour le moment, bon, ça n'a pas démarré encore.
Non, alors l'idée est de retourner en octobre à Dakar pour lancer cette phase initiale, en partenariat avec des structures d'accompagnement notamment, qui seront notre vivier de dossiers de PME.
C'est-à-dire c'est ça, parce qu'il faut trouver des PME dans lesquelles investir, donc des projets sexy, hein, si on peut dire. Et puis ensuite, il faut trouver des contributeurs.
Alors exactement. Donc il y a ces deux problèmes-là.
Ils sont séduits par les projets de PME.
Exactement. Il y a deux avantages de notre plateforme, c'est que ça offre un nouveau canal de financement à des PME, mais aussi un produit d'épargne pour les particuliers. Mais il faut trouver avant cela des PME viables et crédibles. Du coup, on crée des synergies avec des structures d'accompagnement qui sont capables de nous apporter des dossiers qu'on réanalyse derrière et qu'ensuite on présente aux particuliers. Et l'enjeu, le second enjeu, c'est de trouver des contributeurs, effectivement. Par exemple, un dossier de financement de 30 millions de francs CFA, il faudrait trouver un nombre assez conséquent de particuliers qui mettraient, mettons, 50 000, 70 000 francs CFA pour compléter cette cagnotte.
Ouais. Bon, vous avez Didier à côté, en face de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme conseil ?
Alors, vous avez touché à une thématique clé des problématiques de notre travail. C'est comment trouver et attirer et fidéliser un nombre assez conséquent de contributeurs locaux. Donc, on partait notamment sur des contributeurs, au début, bancarisés. On pourra reparler, si vous voulez, des canaux de paiement, mais une solution en mobile money est très coûteuse et donc ça risque d'être assez complexe à mettre en place. Du coup, on est au début sur une frange assez aisée de la population locale. qui est donc assez restreinte. Donc, le problème, c'est comment communiquer auprès de cette population, comment les intégrer dans notre solution,
les identifier
et les fidéliser.
Très bien.
Et leur donner envie d'investir dans des PME africaines de leur continent.
Effectivement, hein. Si vous voulez, c'est vrai qu'ils ont touché un point essentiel. 90% du secteur privé africain, ce sont des PME. Et un des gros problèmes, c'est l'accès au financement. Ouais. L'accès à de la dette, bon, on passe par la banque, mais c'est extrêmement coûteux.
Ce fameux chaînon manquant.
Exactement.
Au-dessus de la microfinance et en dessous de la banque, il n'y a rien.
Et la banque, et puis surtout, c'est que la banque en Afrique ne sait pas forcément bien gérer la PME. Donc du coup, la PME souvent laissée pour compte. Avant peut-être de répondre à Gilles, trois petites questions. Quel sera le statut de votre organisation ? Vous serez enregistré comme une banque auprès de la commission bancaire ? Ça sera un organisme de microcrédit ? Quel sera le statut que vous adopterez, en fait ?
Alors, nous ne pouvons pas devenir une banque et une microfinance. Et de toute façon, ce n'est pas notre objectif de recréer cette machine administrative. Nous, c'est plutôt un statut de conseiller en financement. On se positionne comme intermédiaire le plus léger possible entre une PME en besoin de financement et des contributeurs en capacité de financer cette PME. On se place au milieu, on formalise le dossier pour la PME, on lui facture ce service. En France, c'est autour de 4-5% de commission facturée à la PME. Mais en aucun cas, nous gérons des dépôts. En aucun cas, nous sommes un fonds de placement qui gère des portefeuilles d'investissement. Nous sommes des facilitateurs entre des particuliers qui décident des projets dans lesquels ils investissent. En aucun cas, on propose des portefeuilles d'investissement clés en main à des particuliers. On donne de l'information transparente et la plus complète possible sur des PME que les particuliers choisissent ensuite et se créent eux-mêmes leur propre portefeuille d'investissement.
Et le particulier investit après directement, donc voilà. Prête directement à la PME ou passe par vous ?
En fait, bon, là, on rentre dans les subtilités légales du marché ouest-africain qui ne permet pas d'avoir une relation directe contractuellement, ce qui est le cas en France. Vous avez un contrat de dette. Vous êtes entre guillemets le banquier de la PME parce que vous avez un contrat de dette qui vous lie à la PME. Du coup, on doit créer une structure intermédiaire qui mutualise par projet. Par projet, nous allons créer, c'est aussi notre travail avec Paul, de supporter ce travail, de créer des groupements qui vont mutualiser les particuliers qui veulent prêter à cette PME et la PME. Et au sein de ce groupement, le prêt pourra se faire et pourra être formalisé.
Très bien. Qu'est-ce que vous proposez comme retour sur investissement à vos investisseurs, à vos particuliers ?
Alors, il y a le taux d'intérêt brut sera entre 10 et 13%. Donc, on est au-dessus des placements traditionnels, les produits d'épargne classiques, mais qui, eux, sont garantis. Nous, on ne garantit pas en totalité les crédits, en tout cas. Il y a une prise de risque qui est rémunérée, du coup, avec une sorte de bonus sur le retour. Après impôt, on s'attend à des retours de 8 à 9%.
Alors, ce que vous garantissez, ce sont des PME triées sur le volet.
Exactement.
Évidemment, des projets que vous avez soigneusement analysés, mais vous ne pouvez pas garantir plus.
Non, voilà. Et vous aurez une plateforme en ligne qui va gérer tout ça automatiquement, où il y a beaucoup de...
Alors, la plateforme en ligne propose
des dimensions humaines.
Elle présente les projets, la plateforme, mais comme vous dites, on a envie de créer plus de liens et la confiance passera certainement plus par une présentation physique notamment qu'on compte faire. Donc à chaque lancement de projet, on aimerait, on compte sur vous pour nous aider à faire ce genre de présentation, on aimerait présenter à Dakar et à Abidjan, par exemple mensuellement ou trimestriellement, à nos contributeurs. Voilà, aujourd'hui, voilà les projets qu'on présente et qui ont besoin de crédit. Monsieur à côté va venir vous présenter sa PME et il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a besoin de 50 millions de francs CFA et est-ce que ça vous dit oui ou non de lui prêter 100 000 francs.
Mais c'est un projet d'économie solidaire ou pas ?
Pas vraiment, de mon point de vue.
Mais avec un rôle social.
C'est vraiment du... Non, c'est du business.
Ça, c'est du business, mais avec un rôle plus social qu'un fonds d'investissement classique.
Enfin, c'est du financement alternatif, mais c'est du business. Hein, et je crois qu'il faut que les gens comprennent que c'est du business, sauf si je me trompe.
Non, vous avez raison, c'est du business, mais le point de départ de notre travail avec Paul, c'est l'emploi. Et l'emploi des jeunes.
Vous donc disiez c'est du tout business à version génération
c'est
Y.
C'est du business qui doit générer de l'emploi.
Voilà,
et je crois que c'est important. Donc, c'est de l'investissement à impact, on va dire ça
exactement.
Comme ça.
Parce qu'avant de partir sur les financements...
Qu'est-ce que vous en pensez, Didier ? Ils ont 25 ans tous les deux, ils terminent à HEC.
C'est super, c'est une très bonne idée.
Ils ont un projet comme ça pour le continent africain qui démarrerait à Dakar. Vous trouvez que le projet est trop ambitieux ?
Non, pas du tout. C'est une excellente idée. Et il faut justement que l'ensemble des jeunes acteurs, comme eux, les jeunes Africains, s'investissent dans ces domaines qui ne sont pas si mystérieux que ça. Ils ont fait de bonnes études, ils comprennent l'environnement des entreprises. Maintenant, il y a cette touche africaine sur laquelle ils travaillent justement, parce que je posais la question express, est-ce que tout est électronique ? Eh bien non, parce qu'en Afrique, justement, c'est une question de contact, de relation, rencontrer les gens, discuter avec les gens, leur parler. Et c'est en ça que l'idée de faire des rencontres périodiques pour rencontrer des investisseurs potentiels, faire venir des entrepreneurs, est extrêmement important. C'est-à-dire, nous sommes sur de la relation humaine, et c'est vrai, autant à Paris ou à Singapour ou à Londres, on envoie de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie, ça passe très bien. En Afrique, c'est un peu moins le cas. Et en plus, nous sommes dans des cercles plutôt fermés. À Dakar, quand on va présenter l'entrepreneur, quelqu'un va le connaître en disant « Ah, il est bien, ah, il n'est pas bien, ah, il a déjà truandé telle personne. » Donc, nous sommes vraiment dans un contexte de proximité qui est extrêmement important.
Ils ont deux ans de stage sur le continent africain. Ça suffit pour nouer, avoir ce sens des contacts
Ça va très vite. Je pense que quand ils ont été à Dakar et à Abidjan, en une semaine, ils ont rencontré tout l'écosystème. Les relations se font beaucoup plus facilement. Je suppose que les relations sont faites établies très facilement. Mais il y a la question de mes deux amis, effectivement, comment attirer un public d'investisseurs qui croit dans ce projet ? Un, la proximité. Je crois beaucoup à cela. Donc, les rencontres périodiques qu'ils ont imaginées, c'est très important. Je crois aussi que nouer des partenaires avec des banques qui ne financent pas certains projets, mais qui seraient prêtes à vous recommander des PME qui ne les intéressent pas, c'est aussi un très bon moyen, parce que les gens, naturellement, vont voir les banques. Or, les banques qui n'ont pas d'intérêt à financer ces PME ou ces TPE peuvent vous les envoyer. Donc, je crois que le système de partenariat et d'alliance aussi que vous allez mettre en place sur le terrain va beaucoup vous aider à identifier ces investisseurs potentiels et ces PME.
Et inspirer confiance pour les investisseurs.
Ah oui, et là aussi, c'est peut-être cette question de confiance. C'est vrai, ils sont jeunes, ils sont certainement brillants, mais s'entourer ou d'un conseil consultatif ou d'un conseil stratégique de quelques grands frères, comme on dit, à Dakar, qui sont respectés par la communauté des affaires, ça ne peut que vous aider. C'est-à-dire de voir que vous êtes entouré de quelques anciens chefs d'entreprise ou de quelques jeunes patrons, ça va beaucoup rassurer les investisseurs potentiels, même les PME qui vont venir les voir.
Rapidement, est-ce qu'il y a une autre question ?
Comme donc nous, on cherche à trouver de l'argent pour des PME, ça c'est un point. Mais pour notre pilote, notre phase test, on a besoin de financement. Est-ce que vous pensez que des investisseurs pour notre entreprise, je ne parle pas de PME, seraient intéressés sur le continent ? Est-ce que c'est une thématique qui pourrait intéresser des investisseurs, notamment pour cette phase test qui commence dès octobre ?
Réponse en 30 secondes, Didier.
Sinon, ça peut intéresser des investisseurs, même des particuliers qui aujourd'hui veulent diversifier un petit peu leur placement. Ça peut les intéresser. Et puis, une fois de plus, il y a des institutions financières dont la cible n'est pas la vôtre au niveau des PME qui ne se regarderaient pas.
À quoi vous pensez, par exemple ?
Des organismes de microfinance qui pourrait peut-être mettre 20 000 dollars ou 20 000 euros dans votre projet en disant « Tiens, on ne sait jamais, vu le taux de retour, pourquoi pas ?» Puis des particuliers fortunés qui peuvent être dans votre tour de table à l'origine et qui peuvent après venir en dette sur des finances. Parce que vous, votre financement, ce n'est pas de la dette, c'est de l'equity que vous offrez à vos investisseurs, j'imagine.
Pour vous-même,
c'est ça. Donc, ça peut intéresser des investisseurs potentiels de mettre un petit billet dans le projet.
Voilà. Et bien, comme ça, vous avez fait d'une pierre deux coups. Gilles Lecerf, vous restez avec nous puisque vous êtes venu pour participer à l'émission. Vous allez pouvoir nous dire un peu ce que vous pensez à la fin de l'émission. On va donner la parole à d'autres projets. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard que vous composez pour nous parler de votre projet qui parfois plafonne, coince et sur lequel vous sollicitez les conseil du coach Didier Akwété.
16 milliards de voisins, tous les mois, avec le coach Didier Akwété.
Nous avons Alioune qui nous appelle au standard, 26 ans, qui est à Dakar. Bonjour Alioune.
Bonjour madame.
Alioune, vous êtes vous avez un master en finance à Subdeco Dakar et maintenant vous travaillez dans une grande banque à Dakar et vous avez parallèlement un projet d'agriculture et d'élevage de poulets. Donc en gros, vous êtes parce que vous êtes jeune, vous avez 26 ans, futur banquier et éleveur en même temps. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Si j'ai bien résumé. Bon, vous restez bien en ligne avec nous, Alioune. On va bien sûr rendre l'antenne pour le flash et puis on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Vous allez nous dire un petit peu sur quoi coince votre projet. Je crois que vous avez déjà démarré dans l'élevage de poulets. Didier Akwété est en train de compulser, de regarder votre business plan et on vous reprend juste après.
Et de faire griller du poulet dans le studio.
Voilà, exactement, ça sent bon, surtout du poulet bicyclette. Allez, retour dans 3 minutes, juste après le flash, bien sûr, chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Dialogue entre vous, les voisins qui souhaitaient entreprendre sur le continent africain, et Didier Akwété, le coach qui vous écoute, qui vous conseille, qui détecte surtout les failles de votre projet quand vous avez le sentiment d'être bloqué pour trouver des financements. C'est quand même souvent le principal point de blocage. Ou pour bien faire connaître vos produits, par exemple, ou vos services. En fin d'émission, Didier, bien sûr, vous ferez le point sur un des chapitres du business plan, comment monter des partenariats, à ne pas confondre avec les associés, bien sûr. Vous nous appelez pour nous parler de vos projets, quels qu'ils soient, au 33 1 84 22 71 71, enfin, quels qu'ils soient. Évidemment, il faut qu'ils soient aboutis et que vous ayez des questions précises. Nous reprenons Alioune qui était au téléphone avec nous juste avant le flash. Vous êtes toujours au téléphone, Alioune ?
Oui, toujours.
Vous avez 26 ans, vous êtes à Dakar, donc master en finance Subdeco Dakar. Vous travaillez dans une banque, mais vous avez un peu la fibre de l'agriculture. Culture, ça vient de votre père, je crois ?
Oui, exactement, ça vient de mon père. J'ai hérité en fait de l'amour de mon père. C'est un héritage culturel.
Ouais. Alors, je crois que vous avez un petit terrain, je dis un petit terrain parce que c'est 1,5 hectare. Alors, évidemment, en agriculture, hein, ça s'appelle un timbre-poste, mais vous avez démarré un élevage de poulets. Où est-ce que vous en êtes exactement ? Je crois que c'est entre Dakar et Thiès, hein, c'est bien ça ?
Oui, exactement, entre Dakar et Thiès, c'est-à-dire précisément à Babelor, dans la commune de Revusque.
Ouais.
Et actuellement, là, par rapport au projet d'élevage du poulet, j'avais commencé à construire un poulailler sur ce terrain-là, mais malheureusement, ce n'est pas encore achevé. Donc, du coup, j'étais obligé de louer un poulailler à 70 euros, c'est-à-dire 45 000 francs CFA. Actuellement, ça ne marche pas trop bien. Donc, actuellement, le projet, je l'ai arrêté. Actuellement.
Donc, il n'y a toujours pas de poulet à l'intérieur de ce poulailler, en fait.
Actuellement, là j'ai arrêté. J'ai vendu tous les poulets et j'ai essayé de chercher un modèle, c'est pas.
D'accord, ok. Il y a eu des poulets, vous les avez vendus et maintenant, il n'y a plus rien.
Il a tout bouffé, oui.
D'accord. Ouais. Et alors attendez, pour avoir ces poulets, vous aviez obtenu un prêt, je crois.
Oui, exactement. J'ai obtenu un financement à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal, qui s'appelle ANPEJ.
D'accord.
Donc
l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes distribue bien des prêts, pour ceux qui en douteraient, d'accord.
Et les poulets.
Hein, vous avez eu à peu près 3 000 euros, hein, c'est ça, 2 millions de francs CFA.
Oui, 3 050 euros.
Ouais.
Ce prêt-là, c'est destiné à l'investir sur l'agriculture et l'élevage des poulets. Mais bon, en termes de risque, l'élevage des poulets, c'est beaucoup plus risqué.
Oui.
Et bon, j'ai préféré quand même, comme c'est un prêt et il y avait des échéances à payer et tout. Donc, j'ai décidé de focaliser presque, on peut dire, 75% des investissements sur l'agriculture. Et maintenant, les 25% autres sur l'élevage des poulets.
Donc, sur du maraîchage, hein, grosso modo.
Oui, sur du maraîchage, exactement. Mmh. Exact.
Mais alors quelles sont les questions que vous voulez poser à Didier ? Parce que j'ai l'impression que là, vous ne savez pas très bien où vous allez, Alioune.
Actuellement, j'ai un souci par rapport à cela, parce que je veux élargir la culture maraîchère. Je voulais savoir, en fait, vu la concurrence, est-ce que ce projet d'abord est viable ? C'est une question que je pose à Didier. Et où est-ce que aussi je dois me démarquer un peu plus ?
Et la question aussi est de savoir si vous prenez un deuxième prêt, parce que là, vous avez
dépensé. Oui,
c'est ça, vous avez tout dépensé du prêt.
Oui, bonjour Alioune. Je voudrais savoir ce que les 3 000 euros, les 2 millions que l'agence vous a prêtés, vous les avez remboursés en partie ? Ça vous a déjà rapporté un peu d'argent ? Ou tout est parti dans l'investissement avec zéro retour pour l'instant ?
Je rembourse la totalité en 24 mois.
Ah, vous avez remboursé la totalité en 24 mois. D'accord.
Très bien.
Okay. 24 mois, oui.
D'accord. Et là, est-ce qu'il vous reste des ressources propres ? Est-ce qu'il vous reste un peu d'argent si vous devez faire un nouvel investissement ?
Là, non, exactement. Là, je roule même sur fonds propres.
Très bien.
Sur mes propres fonds, c'est-à-dire les fonds, les mois salaires et tout. Donc,
oui, c'est ça, parce que vous êtes employé dans une banque hein, à Dakar. D'accord.
Exactement.
OK. Alors, j'ai une deuxième question. Lorsque vous avez étudié la rentabilité des deux projets, l'agriculture et l'élevage, lequel, bon, j'ai compris que l'élevage coûtait un peu cher et l'investissement était peut-être un peu plus lourd, mais quand vous avez étudié les deux projets par rapport à la superficie dont vous disposez, qu'est-ce que vous espérez comme retour sur investissement si vous lancez dans l'agriculture et sur quel produit en fait ? Parce que vous avez parlé de différenciation, je suppose que vous avez regardé un peu le marché ou pas encore ?
Oui, j'ai regardé un peu le marché. En fait, l'agriculture au Sénégal, ça dépend en fait des saisons, du climat et tout. Il y a des moments où il faut cultiver des poivrons, des choux, des aubergines, des poivrons, des aubergines, etc. Il y a des moments où il faut cultiver autre chose, des piments.
Non, mais enfin, avec un hectare et demi, vous n'allez pas aller très loin. Est-ce que vous avez songé, par exemple, là, à un projet de transformation à partir de poulet?
Exactement. Pas seulement à partir de poulet, mais à partir aussi des légumes qu'on a produits. Donc, actuellement, c'est ça le projet à long terme. C'est-à-dire que j'envisage quand même de créer une ligne de transformation, acquérir aussi d'autres terres pour élargir aussi la production.
Ok. Alors, si vous voulez, enfin, bon, on ne dispose pas assez d'éléments pour vous donner des réponses assez précises, mais ce que je comprends, l'élevage de poulets, c'est un business qui, c'est vrai, fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, vous savez qu'au Sénégal, il y a le roi du poulet que nous connaissons tous, qui est un gros industriel, et beaucoup d'acteurs rentrent dans ce marché-là. Et c'est vrai, c'est un marché de volume. Donc, si vous voulez rester dans cette industrie, qui est une industrie profitable, de ce que j'en sais et avoir discuté avec des acteurs du secteur, c'est un bon business avec un peu d'investissement. L'investissement, je vous posais la question de savoir si vous avez remboursé vos 2 millions. On m'a dit oui, vous les avez remboursés rapidement. C'est-à-dire que donc, on peut vous faire confiance. Et ça, c'est très important lorsque vous venez avec un projet de développement ou d'expansion. Alors donc, sur le poulet, je pense que c'est un bon business, à condition peut-être d'être en partenariat avec d'autres acteurs du marché qui, ensemble avec vous, pourraient faire du volume et peut-être demander un investissement ensemble à plusieurs. Parce que ça coûte cher, de plus en plus d'acteurs rentrent dans le domaine. Pourquoi ne pas vous allier avec d'autres petits acteurs et syndiquer un financement qui vous permet d'avoir une taille critique et qui sait, peut-être Iroko aussi mettra peut-être un peu de dette dans votre business puisqu'ils vont commencer au Sénégal. Donc, volume, partenariat peut-être avec d'autres, levée de fonds sur la base déjà de vos premiers succès et le fait d'avoir remboursé ce que vous aviez emprunté. Deuxièmement, l'agriculture maraîchère. Alors, c'est là où je pense que, compte tenu de la superficie que vous avez, j'aurais été plus naturellement dans des produits de niche. C'est pour ça que je demandais, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui n'est pas assez produit? Qu'est-ce qui est très demandé? Pour peut-être aller sur un produit qui n'est pas assez produit aujourd'hui, mais qui fait une forte demande localement et voire à l'étranger. Parce qu'attention, vous parlez d'investissement dans l'élevage, enfin, ça sera quand pareil dans l'agriculture.
Quand on sait que le concentré de tomates arrive sur le marché sénégalais de Chine, c'est quand même pas gagné.
Oui, ça arrive par container et le pauvre, il sera tué. Par contre, si vous dites, vous faites de l'agriculture bio sur un produit qui n'est pas inondé par les Chinois, les Européens sur le marché.
Donc, du haut de gamme,
vous,
de la niche.
Vous commencez
c'est
déjà, enfin, de la niche. Pas forcément du haut de gamme, mais de la niche, un produit qui est assez demandé, mais qui n'est pas produit suffisamment localement, ou qui est demandé à l'étranger, mais qui n'est pas produit suffisamment, où là, vous pouvez même à terme vous lancer dans de la petite transformation. Mais l'agriculture, certainement, mais attention, compte tenu de la petite taille de votre terrain, bon, un hectare, c'est déjà bien, c'est regarder quels sont les produits de niche ou les produits saisonniers dont vous parlez vous-même. Mais là, vous êtes le mieux placé pour savoir quels produits fonctionnent.
Bon, à Lyon, il faut vous poser les bonnes questions là-dessus. Hein. Effectivement, continuez de scruter le marché de la consommation agroalimentaire. Vous nous tenez au courant. On reste en contact surtout, hein, à Lyon. D'accord, on vous laisse. Oui, Didier.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon secteur. L'agro-business, l'agriculture, c'est un secteur qui va être extrêmement porteur. Donc, on encourage même les petits producteurs à se lancer, mais à condition de bien choisir leurs produits pour ne pas subir la concurrence des grosses exploitations.
Il peut y arriver, effectivement.
Non, mais il peut y arriver s'il trouve le bon produit. Et en plus, c'est un bon entrepreneur qui rembourse ses dettes. A priori, il inspire confiance à Iroko et aux autres.
Il a une bonne formation. Merci beaucoup de nous avoir appelés à Lyon.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant. Avec le coach Didier Akouété.
33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un autre projet. Jean-Luc est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc, vous avez 29 ans, à moyenne d'âge très jeune hein, aujourd'hui, Didier, vous avez remarqué. Hein, tout ben ça ne rajeunit pas. Vous êtes à Abidjan.
La côte.
Exactement. Mais vous êtes togolais, Jean-Luc. Vous avez été formé en France. D'ailleurs, vous avez un master en management et un master 2 en management du sport à Paris. Et votre projet, évidemment, concerne le sport. C'est en gros l'utilisation du sport pour contribuer à l'éducation des jeunes. Votre projet s'appelle Leading Youth Sport and Development, à partir d'une association existante, mais je crois que vous voulez en faire quelque chose qui s'autofinance davantage, hein, c'est bien ça?
Effectivement, on a envie de changer d'échelle, de grandir et de pouvoir pérenniser l'action.
Oui, alors dites-nous où vous en êtes, Jean-Luc.
Écoutez, on en est au point où, après 3 ans, on commence à avoir de bons résultats. On a été dans 15 villes et villages au Togo. On a eu 5000 participants. On a eu 300 à 400 jeunes suivis au Togo. Mmh. On a 11 jeunes qui ont été sélectionnés pour des camps de la NBA. On en a 4 qui sont partis faire des études en Afrique du Sud.
Alors, vous ne dites pas l'essentiel, hein, mais c'est, vous êtes vraiment focalisé. Vous, c'est le basket. Hein, c'est les clubs de basket au Togo pour fédérer les jeunes, leur donner envie, etc.
Effectivement, on est parti dans l'idée de prendre une discipline qui pourrait réunir des garçons et des filles de toutes les couches sociales du Togo. Et le basket est apparu comme la discipline qui pouvait répondre à ses besoins.
Parce que votre constatation de départ, vous qui avez grandi, je crois que vous êtes arrivé assez jeune en France. Hein.
Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Ouais. J'ai quitté le Togo en 99. Ouais. Et tout de suite, le sport m'a permis de m'intégrer. J'ai commencé par le football, comme tout bon jeune Africain. Mais autour de l'âge de 16 ans, j'ai essayé le basketball. Et c'est vrai que j'ai découvert d'autres choses. Ça m'a permis de rencontrer des personnes de tous les milieux, ce que ne permettait pas forcément le football, mais par-dessus tout, ce sont des disciplines qui m'ont permis de rencontrer du monde, d'appartenir à une communauté. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de recréer en Afrique quand je suis rentré. Donc, ça fait 3 ans maintenant.
Parce que ça manque beaucoup au Togo ?
Je trouve que ça manque. Personnellement, je me suis rendu dans plusieurs villes et villages. Je voyais des jeunes un peu abandonnés qui cherchaient des repères. Même dans ma propre maison, je voyais mon petit frère tout le temps devant la télé. Et je me suis dit, il faut peut-être des activités, aussi bien pour les jeunes aisés que pour les jeunes défavorisés, des activités qui les attirent vers le haut. Et je pense que le sport est quelque chose d'accessible assez facilement. Ouais. Donc on n'utilise pas assez. C'est le constat que j'avais.
Mais alors là, ce que vous nous décrivez, c'est un projet qui fonctionne depuis 3 ans. Mais pour moi, c'est un projet social, c'est un projet associatif, c'est un projet humanitaire.
C'est un projet associatif humanitaire, c'est quelque chose que j'ai commencé à l'époque, j'ai travaillé chez Africa Top Sport, puis je l'ai continué quand j'ai rejoint avec Canal+ Afrique, donc j'avais pas besoin de cette activité pour vivre, mais c'est vrai que ça a grandi. On a commencé avec 2 éducateurs pour encadrer les jeunes, puis on est passé à 7, à 10, à 15, aujourd'hui on en a formé 25, c'est des gens qu'on paye, et donc il y a un besoin donc d'avoir plus de financement. Et le constat que j'ai de par l'expérience que j'ai dans l'industrie du sport, aussi bien chez Africa Top Sport que chez Canal, c'est que pourquoi ne pas s'appuyer sur ces jeunes, sur ces pupitres, pour développer l'industrie du sport qui pourrait leur être bénéfique à tous. Donc au même moment où on répond à des problèmes sociaux, on contribue à développer une industrie du sport qui, à mes yeux, de par les entreprises où je suis passé, le modèle qu'on a aujourd'hui ne contribue pas forcément à développer le sport comme on voudrait. Donc, moi, j'utilise aujourd'hui le sport vraiment pour répondre à des problèmes sociaux, mais dans un second temps aussi, pour développer cette industrie dans laquelle j'ai été formé.
Jusqu'à maintenant, qui a mis de l'argent dans votre projet ?
Canal+ Afrique, mon ancien employeur, a mis de l'argent. Ils nous ont accompagnés sur cette saison. On a eu une plateforme américaine qui s'appelle Ungood qui nous a aussi accompagnés. On a eu des fondations, aussi bien au Togo qu'à l'étranger, qui nous ont aidés. Et de plus en plus, on s'appuie sur le crowdfunding, des financements en ligne, participatifs. C'est ce type de financement qui est le plus rapide. C'est-à-dire qu'on a besoin d'argent dans les 2-3 semaines. C'est des choses qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, on grandit tellement qu'on ne peut pas se contenter que de ça pour y arriver. Et puis, il y a les partenariats gagnant-gagnant. Quand on a besoin d'un expert pour venir, on travaille avec la NBA. Quand on a besoin...
La ligue de basket nord-américaine. Hein, donc, vous intéressez les Américains. Oui.
Exactement.
Évidemment, il y a un versant détection des talents, évidemment, dans ce que vous faites, qui peut intéresser les professionnels du sport.
Effectivement, c'est vrai que notre approche, c'était pas une académie, on cherchait pas des talents. L'idée, dans un premier temps, comme moi j'ai eu la chance de l'avoir en France, c'était d'offrir l'accès aux jeux à tous les enfants. Mais à travers les entraînements, le sport se développe et forcément des jeunes se démarquent.
Alors on a bien compris votre problématique, c'est comment changer d'échelle finalement et comment se développer plus largement à travers le Togo, mais aussi aux alentours, dans les pays voisins. Didier Akouété, qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Je sais que vous aimez bien le sport.
Oui, bonjour Jean-Luc. Non, c'est une bonne initiative. Bonjour. Si vous voulez, la question que je voulais poser à Jean-Luc, l'idée c'est d'en faire un projet marchand, un vrai business ou d'associer des entreprises pour son caractère un peu social et intégrateur des jeunes, quoi.
L'idée n'est pas d'en faire un business au niveau des enfants. On ne veut pas mettre cette pression-là de dire qu'il nous faut à tout prix des talents chaque année parce qu'on n'ouvrirait pas nos entraînements à tous les jeunes qui veulent venir. On mettrait aussi une pression sur nos coachs qui, en fin d'année, auraient donc cette responsabilité qu'il faut à tout prix des talents pour qu'on puisse se financer. Donc nous, on veut laisser ça de côté. Mais on considère aujourd'hui qu'effectivement, les marques avec lesquelles on travaille ont un intérêt à s'associer à notre projet, car ça contribue au développement de la société, à l'éducation des jeunes. Et pour eux, je trouve que c'est un bon retour sur investissement en termes de marketing.
Ok.
Oui, alors, vous ne voulez pas faire des clubs privés à la Kenyan, si j'ai bien compris.
Enfin, à la limite, pourquoi pas. Genre, s'ils ont des jeunes talents qui peuvent aller jouer dans la NBA ou les meilleures compétitions mondiales, s'ils ont du talent, pourquoi pas. En fait, je crois qu'il faut arriver à médiatiser un peu plus l'initiative. Vous avez cité certains des partenaires médias notamment, ou même la NBA, ou certaines marques de vêtements de sport, ou de chaussures, ou même de boissons, qui, j'imagine, peuvent être intéressés par ce que vous faites, c'est-à-dire à toucher un public plus large. Alors, je me demandais si vous ne pourriez pas créer, du coup, une sorte de NBA d'amateurs africains ou togolais, où, justement, parce que vous intégrez ces jeunes, vous avez des coachs, il y en a certains qui ont du talent. En fait, vous développez un concept de NBA de jeunes amateurs africains, diffusé sur les grandes chaînes africaines et internationales, qui permet justement d'attirer des annonceurs qui, du coup, financent l'activité sociale de votre business, puisque vous leur donnez accès à un marché. Parce que c'est vrai, il y a la première dimension qui est la responsabilité sociétale des entreprises qui vont vous donner un peu d'argent parce que vous intégrez les jeunes par le sport, vous les motivez, etc. Et puis, il y a l'entreprise qui peut être intéressée par du business qui dit « Écoutez, on dirait que dans ces jeunes, il y a des vrais talents. C'est relayé par des chaînes nationales, régionales, voire internationales qui permet d'attirer donc, des consommateurs potentiels avec des gros annonceurs. » Et puis du coup, pourquoi pas, certains recruteurs internationaux qui viendraient, entre guillemets, à travers votre association, recruter des jeunes pour des équipes internationales avec une petite commission pour le club que vous refinancez dans la construction de terrains de basket, etc. Donc, si vous voulez changer d'échelle, à mon avis, ça sera lié à la capacité à rendre le produit très marketing, et je crois que vous en avez fait aussi, et beaucoup plus visible, avec une échelle différente qui forcément passe par les médias, comme Canal est un de vos partenaires.
Si j'ai bien compris, Jean-Luc, vous cherchez pas à gagner de l'argent avec ce projet, mais vous cherchez à ce que le projet soit plus grand, en fait, c'est ça.
On cherche à ce que le projet puisse s'autofinancer.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez des conseils de Didier là-dessus ?
Écoutez, j'ai l'impression qu'il lit dans mon esprit. On discute avec Canal Plus depuis quelques mois pour organiser donc un premier événement aussi bien avec les jeunes que nous on a au Togo, mais d'autres partenaires qui sont au Sénégal, au Bénin, qui font quelque chose de similaire. On aimerait se réunir pour créer donc un premier tournoi ensemble qui aurait lieu à Abidjan en décembre prochain. Parce qu'effectivement, si on ne veut pas monnayer nos joueurs, le seul moyen de générer des revenus, ça passera par les médias et le sponsoring. Donc c'est des idées qu'on a en tête. C'est des idées sur lesquelles on travaille. Et mais en tout cas, voilà, ça rejoint bien ce que les conseils de Didier. Donc, ça me conforte dans mon idée.
Non, mais très bien. Et puis, je suppose que vous avez accès à des joueurs internationaux qui sont à la retraite aujourd'hui, qui sont peut-être des parrains de l'association, qui pourraient venir faire des matchs entre les anciens et puis des jeunes africains talentueux. L'initiative
est
excellente.
Contacter des parrains pour faire monter un peu la sauce.
On travaille. Le projet va être répliqué en Côte d'Ivoire à partir du mois prochain. Contrairement au Togo, ici, on va travailler avec l'Organisation internationale pour les migrations, qui a trouvé l'idée bonne pour contribuer à l'intégration de jeunes issus de familles déplacées pendant la crise post-électorale de 2010. Donc c'est eux qui financent le projet, et donc la fondation de Didier Drogba est partante pour associer donc l'image de Didier au projet. Et du coup, ça permet à la NBA aussi de ramener quelques joueurs africains qui jouent aux États-Unis. Donc voilà, c'est créer cette dynamique, avoir des parrains. Le projet va commencer bientôt. Mais voilà, c'est une dynamique dans laquelle on est. Et on se rend compte, en tout cas, qu'on a besoin de cette médiatisation du projet pour franchir un palier.
Bon, en tout cas, vous êtes bien parti. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Jean-Luc. Vous y croyez, Didier ?
Oui, non, c'est un beau projet, ça. C'est un projet fédérateur, intégrateur, stimulant. La quête de la dimension nécessite une médiatisation du produit avec des talents. Et a priori, je pense qu'il a tous les réseaux, enfin toutes les bonnes idées qu'il faut. Et il y a une dimension responsabilité sociétale aussi des entreprises, comme des compagnies, des télécoms, des boissons gazeuses.
Il y a beaucoup de choses à faire sur le continent. Il y a encore de la place, largement.
Il y a énormément de place parce que c'est vrai, c'est un désert en termes d'infrastructures sportives pour les jeunes d'Afrique. Et ça, je pense que ça contribue concrètement à créer des espaces de jeux, de détente, de fédération. C'est une très
bonne idée. Merci beaucoup Jean-Luc et bonne chance pour
ce
club.
Merci Jean-Luc.
Qui va devenir panafricain de basket, on en est sûr. Et pour ses activités aussi, pour redonner confiance en l'avenir pour les jeunes. Chaque mois, vous approfondissez un point du business plan, le fameux plan d'affaires qui est indispensable pour solliciter une aide, pour solliciter des investisseurs ou pour solliciter des conseils. Aujourd'hui, comment monter des partenariats? Il y a quelque temps, vous avez approfondi l'aspect comment choisir son associé ou ses associés. Les partenariats n'ont rien à voir avec cela.
Quand on monte un business, il faut toujours se poser la question, comment je peux le faire grandir plus vite en m'associant à des partenaires, en identifiant des partenaires. Et par exemple, lorsque nous discutions avec Héroco en début d'émission, leur préoccupation, c'est de dire comment est-ce qu'on peut identifier des investisseurs potentiels? Eh bien, il faut peut-être qu'ils trouvent des partenaires. Donc, ils vont identifier peut-être des associations, des clubs d'investisseurs au Sénégal, peut-être des banques qui peuvent devenir leurs partenaires, que leur cible de PME n'intéresse peut-être pas. Et donc, ils vont les aider à identifier, à créer un ruisseau, entre guillemets, de financement et peut-être de PME qui les intéresse.
Globalement, sur les projets qu'on reçoit dans l'émission, vous dites souvent que vous n'avez pas assez d'imagination pour trouver des partenariats à
votre
projet.
Alors, pour trouver un partenaire, il faut que le projet soit, on disait en début d'émission, sexy, attractif. Jean-Luc, par exemple, sur son projet de basket, c'est peut-être pas du business, mais nous avons parlé de partenaires. Ces partenaires, ce sont des médias, donc qui vont diffuser son produit. Ces partenaires, ce sont des associations internationales de basket qui vont l'aider à porter son projet, voire à faire venir des basketteurs internationaux, etc., etc. Donc, il faut d'abord que le projet puisse attirer des investisseurs et des partenaires qui vont vous aller beaucoup plus loin. Et une fois de plus, par exemple, dans le cas de cette émission, notre ami qui veut faire l'agriculture au Sénégal, il a un petit terrain où il veut faire de l'élevage de poulets. Je dis, très bien, super son idée, mais c'est peut-être trop petit. Peut-être qu'il lui faut d'autres partenaires pour agrandir son projet et changer de dimension. Donc, c'est très important. Le partenaire, c'est un élément de la stratégie de votre business. C'est-à-dire, quel intérêt avons-nous à aller chercher quelqu'un qui n'est pas votre associé, quelqu'un qui n'est pas votre investisseur, qui n'est pas votre actionnaire, mais qui peut vous aider à aller beaucoup plus loin. Exemple, quand on veut distribuer un produit qu'on fabrique, on va dire, ce produit, une fois qu'il est fabriqué, mais où est-ce qu'il va être distribué? Peut-être qu'en m'associant, en prenant des partenaires dans la distribution, je vais faciliter la distribution de mon produit parce que du coup, je signe une convention avec eux. Ils deviennent mes partenaires dans mon business.
Pourquoi ne pas aller voir des stations-service au lieu d'aller voir uniquement des supermarchés, par exemple, etc. C'est ça l'imagination.
Exactement. Donc, le partenaire apporte de la valeur ajoutée à votre business et en fait, vous enlève certains obstacles qui se posent à vous, soit en termes de distribution, soit en termes de vente, soit en termes de communication. Peut-être que vous n'avez pas de budget communication, mais le fait d'aller vous associer à des médias, parce qu'ils se disent, tiens, le fait d'associer l'image de notre média à tel produit, c'est très bon pour nous. Et en contrepartie, vous diffusez gratuitement la publicité, la communication à vos produits sur ces réseaux de médias, c'est un partenariat. Donc, le partenaire, ce n'est pas simplement un partenaire financier, Mais c'est un partenaire qui peut être arrivé au niveau marketing, au niveau communication, au niveau distribution, etc., etc. Et c'est très important pour vous aider à leverager, comme on dit, sur votre business. Ou comme notre ami qui voulait faire du pressing il y a quelques années déjà, peut-être que ses partenaires auraient pu être des groupes hôteliers. Vous voyez, en disant, j'ai un des partenaires hôteliers qui vont me confier du business et je vais pouvoir laver leurs habits.
Didier Acouetté, vous avez du public aujourd'hui. Il y a Gilles Lecerf qui est là avec son projet.
Dans la même rue.
Gilles Lecerf à HEC, évidemment, on apprend comment monter un business plan. Hein. Néanmoins, ce n'est pas si simple, non ?
Non, ce n'est pas si simple. C'est souvent assez, pas déconnecté de la réalité, mais il y a un décalage assez fort entre ce qu'on peut apprendre en école et ce qui est concrètement réalisable
Ça, c'est intéressant. Si vous nous dites ça, parce que nos étudiants en Afrique racontent ça aussi à longueur de journée, la distance entre la théorie et la pratique.
Gilles a parfaitement raison, même c'est vrai. Et on en a même parlé, nous aussi, quand on a démarré AfriSearch, notre business plan était extrêmement optimiste. Hein, vous savez, on a fait à peine 20% des objectifs que nous avions prévus dans le business plan. Sinon, nous aurions été milliardaires en principe 3 ans après. 20 ans après, je ne suis toujours pas, mais on en rêve encore, Emmanuel.
Voilà, mais en tout cas, on va fêter vos 20 ans dans quelques mois. Ça sera au mois de septembre. Didier, à côté, on vous retrouve en septembre.
Ah bah, évidemment.
Avant les 20 ans, j'espère, de passer dans le studio
à Paris. C'est important.
Merci,
c'est
Gilles Lecerf. Longue vie à Iroko qui va démarrer, on l'espère, très prochainement. Et puis, bien sûr, tous les voisins, les voisines, vous qui nous écoutez, on n'a pas assez de voisines entrepreneuses. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour passer très bientôt dans l'émission. Merci à vous tous pour vos appels. Demain, 7 milliards de voisins, un tout autre sujet. Qui sont les épouses ou les compagnes de djihadistes français ? Voilà, complices ou victimes, ce sera le sujet de l'émission de demain. Merci à vous de votre fidélité. À demain sur RFI.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.